Alors, je suis content d'être parmi vous ce matin. Je pensais être aujourd'hui dans la salle complètement rénovée et avec quelque chose de différent, mais bon, ça va, il y a des fenêtres en plus et une porte de secours. Mais je suis content quand même d'être parmi vous et de vous apporter la parole aujourd'hui. Alors, on va simplement mettre le PowerPoint, s'il te plaît. Attendons que le PowerPoint arrive. Ça s'affiche ici, c'est bien. Voilà, alors pour thème, la thématique d'aujourd'hui, ça sera prétends-tu, le message d'aujourd'hui en tout cas, ça sera prétends-tu être ce que tu n'es pas. Alors vous connaissez certainement ces trois personnes. Est-ce que ça fonctionne? Non. Si. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ah oui, si. Voilà. Est-ce que ça... Voilà, c'est ça. Alors tu connais très certainement ces trois personnalités qui ont une chose en commun. Lance Armstrong a prétendu être un sportif de haut niveau clean, mais il s'est dopé pendant presque toute sa carrière et a menti devant tout le monde. Au milieu, Bernard Madoff, qui a prétendu être un banquier hors pair, il promettait à ses clients des gains de 17%, ce qui est énorme, mais c'était une vaste et grosse escroquerie. Du vol pur et simple, un gros mensonge. Et enfin, Jérôme Cahuzac, qui, en tant qu'ancien ministre du budget, était chargé de trouver tous les fraudeurs. Mais en fin de compte, il avait lui-même un compte caché en Suisse. Alors, ces trois personnes ont, aux yeux du monde, prétendu être dans le vrai, mais elles n'étaient clairement pas dans le vrai. Elles ont gagné des titres, fait d'énormes bénéfices, sont devenues des personnalités super importantes pour leur pays. Mais un jour, ça s'est complètement arrêté. La justice les a rattrapées, et c'est leur jugement qui a mis fin à leur magouille. Alors c'est peut-être facile pour nous de les juger, de juger ces personnes, mais est-ce que moi, ou est-ce que toi, n'avons-nous pas une telle attitude dans notre vie chrétienne? Est-ce que ça ne t'arrive pas de prétendre être une personne que tu n'es pas? De faire comme si tu étais un chrétien modèle, très pieux le dimanche, mais en semaine tu oublies tous tes engagements? Alors la question est, est-ce que tu es dans le vrai? Est-ce que tu marches dans la vérité? Et nous allons voir cela avec l'exemple de deux personnes dans la Bible. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Jean 3, ce petit livre vers la fin du Nouveau Testament. Je vais rapidement lire 3 Jean, à partir du verset 1 jusqu'au verset 15, toute l'épître. De la part de l'ancien au bien-aimé Gaius, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. J'ai en effet éprouvé une très grande joie lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de ta sincérité, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis avec fidélité dans ce que tu fais pour les frères, notamment pour des frères étrangers. Ils ont du reste rendu témoignage à ton amour devant l'Église. Tu ferais bien de les aider d'une manière digne de Dieu dans leur voyage, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des non-croyants. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin de travailler avec eux pour la vérité. J'ai écrit à l'Église, mais Dieu trèfle, qui aime être le premier parmi eux, ne nous accueille pas. C'est pourquoi, si je viens, je rappellerai les actes qu'il commet en bavardant contre nous de façon malveillante. Non content de cela, il n'accueille pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Quant à Démétrius, tous lui rendent un bon témoignage, et la vérité elle-même témoigne pour lui. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurai beaucoup de choses à écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir très bientôt, et nous parlerons de vive voix. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salut les amis, chacun en particulier. Alors, on va simplement se concentrer sur les versets 2 à 11. On va s'arrêter sur cela et voir que nous devons imiter Gaius. Ne pas imiter Diotrephe et surtout imiter le bien au lieu du mal. Et c'est comme ça que nous montrerons que nous appartenons à Dieu. Alors rapidement, des questions de contexte. Alors l'apôtre Jean, donc c'est l'ancien du verset 1, c'est celui qui a écrit la lettre. Il s'adresse donc à Gaius, qui revient souvent, membre d'une église où il est peut-être ancien ou responsable. Et Jean a été mis au courant par des personnes par rapport au problème que posait ce fameux Diotrephe au verset 9 et 10. Et donc il envoie une lettre à Gaius, qui était certainement dans la communauté où Diotrephe exerçait son règne tyrannique, pour le fortifier. C'est pourquoi nous devons imiter Gaius, qui avait la bonne attitude face à des difficultés, et nous allons nous interroger en fait, pendant ce moment, comment l'imiter? Comment est-ce que je devrais imiter Gaius? Bah, premièrement, en marchant dans la vérité. Premièrement, marche dans la vérité. Donc je vais rapidement lire les versets 2 à 4. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. J'ai en effet éprouvé une très grande joie lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de ta sincérité et de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Alors on voit ici que Jean est tout joyeux car il a appris que Gaius continue à marcher dans la vérité. Au verset 2, il lui exprime son souhait. Il souhaite que Gaius prospère à tout point de vue et soit en bonne santé comme son âme. Quel souhait, quel magnifique souhait. J'imagine qu'on aimerait tous qu'un apôtre ou Jésus lui-même vienne nous voir et nous dise « Écoute Nathan, j'aimerais que tu prospères en tout point de vue et que tu sois en bonne santé. » Mais c'est se tromper. C'est se tromper si on croit que Jean priorise ces deux choses, la prospérité et la santé. En fait, Jean s'inquiète d'abord de la santé de l'âme, ce qui est plus important. Et c'est parce que l'âme est en bonne santé que Jean souhaite que Gaius reçoive plus. Du coup, la question pour nous, elle n'est pas de savoir est-ce que je vais recevoir une augmentation au prochain mois? Mais est-ce que j'ai une âme en bonne santé? Mon frère, ma sœur, il y a là un danger, en fait. Le danger, c'est celui d'être plus fier de sa fiche de paye que de son salut en Jésus-Christ. Le danger, c'est d'être plus heureux de pouvoir s'acheter le prochain iPhone 7 que de voir le salut de Jésus se mettre à l'œuvre en nous. Le danger existe de d'abord vouloir la prospérité matérielle et la santé avant la bonne santé spirituelle. Alors comment avoir une bonne santé spirituelle au lieu d'avoir une bonne santé physique ou une bonne santé financière et matérielle? Eh bien, marche dans la vérité. Marche dans la vérité. C'est ce que Jean dit à deux reprises à Gaius. Il est joyeux d'apprendre que Gaius et d'autres frères marchent dans la vérité. Et c'est parce que des frères ont rendu témoignage de la sincérité de Gaius dans sa marche dans la vérité. Alors ça veut dire quoi, marcher dans la vérité? C'est quoi la vérité? C'est quoi marcher dans la vérité? La vérité, c'est simplement l'évangile de Jésus, par opposition à la fausseté ou au mensonge des autres religions ou d'un faux évangile. Et cet évangile, c'est simplement mettre ta confiance dans le salut que t'offre Jésus-Christ. C'est croire que lui seul peut te sauver de ton péché et de la colère de Dieu à venir. Et c'est vivre selon cette grâce que Jésus offre, que Dieu offre par Jésus, jour après jour. Ne pas marcher selon la vérité, c'est vivre selon des mensonges. C'est clairement l'exemple de nos trois amis du début, qui vivaient selon leurs mensonges. Ils croyaient que pour réussir dans la vie, il fallait mentir, tricher, voler. Ils vivaient selon leurs principes. Et je le redis, toi et moi pouvons tomber dans le même piège. Car la plupart du temps, c'est subtil, la différence entre la vérité et le mensonge. Regardez simplement le nombre d'années qu'on a dû passer pour déjouer les magouilles de ces personnes. C'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est arrivé après plusieurs années. La marche dans la vérité, ce n'est pas simple. Ça coûte. C'est dur. Et ça peut parfois paraître complètement fou par rapport à ce que le monde propose et par rapport à ce que la Bible propose. La marche dans la vérité, c'est être dans une situation et avoir le choix entre deux chemins, entre deux directions, entre continuer à faire le bien ou faire le mal. Ou si jamais continuer à faire le mal, enfin si jamais j'ai choisi de faire le mal, ben c'est me corriger et revenir sur le droit chemin. Un exemple concret, un exemple personnel, le streaming. Et je dois l'avouer à ma honte, moi je suis un grand pratiquant du streaming. C'est tellement facile d'aller sur un site et de cliquer voir des séries sans payer. Et j'ai beau me cacher derrière mon statut d'étudiant avec des faibles revenus pour justifier ma pratique, mais ça change rien. C'est du vol. Et il m'a fallu du temps pour vraiment m'en rendre compte. Même si on me le disait, même si j'étais d'accord avec ça, mais pour que ça pénètre vraiment dans mon cœur et pour que j'en sois convaincu, enfin, il m'a fallu du temps. Et c'est vraiment cette semaine où, en discutant avec des amis, bah, j'ai dû avouer que voilà, je regardais une série sur des sites de streaming. Et franchement, je me sentais honteux. Je me sentais vraiment, vraiment honteux. Et j'essayais de changer la conversation rapidement. Et c'est vrai, ça peut paraître subtil, ça peut paraître complètement fou par rapport à ce que le monde propose, mais vraiment, la vie chrétienne, la marche dans la vérité, elle s'implique dans tous les domaines de notre vie. Alors peut-être que pour moi, c'est le streaming, mais peut-être que pour toi, c'est d'autres sujets de manière plus générale. Et je vous demande sincèrement de prier pour moi afin que je puisse m'inscrire à Netflix ou à Canal Play pour que je puisse, en toute honnêteté, regarder des séries. Mais, clairement, je vous invite vraiment à regarder dans votre vie où est-ce que vous n'êtes pas forcément droit, où est-ce que vous ne marchez pas vraiment dans la vérité, et à vous corriger et à marcher dans le droit chemin. Car marcher dans la vérité, c'est savoir que je marche devant Dieu. Non pas pour obtenir sa satisfaction ou son approbation, parce que Dieu est déjà pleinement satisfait de moi en Jésus-Christ. On peut pas rajouter de satisfaction encore meilleure dans notre relation avec Dieu parce qu'on est en Jésus-Christ. Mais je marche dans la vérité. Pourquoi ? Parce que la grâce m'a été donnée et elle agit en moi, jour après jour, pour me transformer à l'image du Christ. Elle agit pour transformer tous mes mauvais caractères, toutes mes mauvaises pensées et de me transformer à l'image du Christ. Et tu sais quoi ? Cela arrivera assurément. C'est sûr, c'est certain. Si tu as mis ta confiance en Jésus-Christ, tu seras à l'image parfaite de Jésus-Christ un jour. Et donc marcher dans la vérité, c'est marcher sachant que dans ce projet, il n'y a pas d'échec. Dans ce projet, ça va forcément réussir car Dieu nous l'a promis. C'est marcher en sachant que un jour je serai parfait. Et donc maintenant, sachant qu'on a obtenu le salut de Dieu, marchons dans ce salut. Marcher dans la vérité peut être dur, difficile, mais quoi qu'il arrive, mon frère, ma sœur, ne te relâche pas, car la victoire est pour toi en Jésus-Christ. Amen. Au final, marcher dans la vérité, c'est pratiquer la vraie foi et la vraie vie chrétienne. Celui qui fait cela n'a rien à cacher. Pas besoin de mettre de masque le dimanche matin. Il n'a pas besoin de mentir, pas besoin de vivre dans la fausseté, de marcher dans le mensonge dans ce qu'il fait. Pas besoin d'être gêné lorsqu'on l'interroge sur ce qu'il a fait cette semaine ou ce qu'il a fait hier soir. Et si jamais tu as trébuché, parce qu'il nous arrive de trébucher, repens-toi et continue à marcher droitement. Donc attention à ne pas vivre en contradiction avec la vie et la foi chrétienne. En contradiction avec ce que tu dis et ce que tu professes en public, et ce que tu fais et ce que tu dis en privé. Marchons dans la vérité, vivons sous la croix de Jésus-Christ, comme Gaius l'a fait. Et Gaius ne s'est pas juste contenté de marcher dans le droit chemin, de manière personnelle et individuelle, mais il a démontré sa démarche, sa marche dans la vérité par son action. Et comment est-ce qu'il l'a fait ? Deuxième point, il l'a fait en faisant preuve d'hospitalité. vais simplement relire les versets 5 à 8. Bien-aimé, tu agis avec fidélité dans ce que tu fais pour les frères, notamment par des frères, des frères étrangers. Ils ont dû rendre témoignage à ton amour devant l'Église. Tu feras bien de les aider d'une manière digne de Dieu dans leur voyage, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des non-croyants. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin de travailler avec eux pour la vérité. Alors, dans l'Antiquité, et pendant longtemps après, jusqu'à la création de la poste, les lettres étaient envoyées par des personnes, par des hommes, qu'on choisissait. Donc, Jean a reçu des nouvelles, et il envoie d'autres personnes. Et ces personnes, c'était des missionnaires recommandés. On le voit au verset 7. Et il demande précisément à Gaius d'en prendre soin. Et Gaius, qu'est-ce qu'il fait ? Il montre sa marche dans la vérité, parce qu'il agit fidèlement envers ses frères, dans sa communauté, et envers des frères étrangers qui viennent d'ailleurs dans sa communauté. Et il fait preuve d'amour aussi, au verset 6. Et il fait preuve d'hospitalité. Et il subvient aussi aux besoins des missionnaires. On voit ça aussi au verset 6. Alors, on ne sait pas précisément qui était Gaius, si c'était un ancien, un pasteur ou le responsable d'une église. Mais, ce qu'on sait, c'est qu'il exerçait son hospitalité sans compter et en faisant preuve d'amour. Et en faisant ça, il travaillait pour la vérité. On ne sait pas si c'était un Billy Graham du 1er siècle, un Luther ou un Calvin en vendeur, ou s'il prêchait comme John Piper. Mais lui, en tout cas, il se mettait au travail en montrant son amour envers sa communauté. Donc, pas besoin d'avoir des dons extraordinaires. Pas besoin de savoir prêcher comme n'importe qui d'autre ne serait jamais prêché. Pas besoin de faire preuve d'un talent extraordinaire à la musique ou au piano, je ne sais pas. Mais nous tous, en tant que membres du corps du Christ, nous sommes utiles au royaume, en tant que personne. Nous sommes un corps avec une multitude de membres, d'organes qui a chacun une fonction différente. Et chacun de nous, chacun de toi, personnellement, tu sers à l'avancée de l'évangile ici, à Saint-Maur. Alors c'est à ta portée de ressembler à Gaius en faisant preuve d'hospitalité, et j'aimerais que tu te poses cette question. Qu'est-ce qui montre à mes frères et à mes sœurs dans l'église que je marche dans la vérité? L'acteur, c'est toi, dans ton propre rôle, surtout si tu es membre de cette assemblée. Et là encore, c'est pas simple, c'est difficile. Parce qu'on est entouré d'une société complètement individualiste. Et de plus en plus, je sais pas, mais on entend souvent parler de bien-être personnel, d'épanouissement individuel, de coaching individuel, de s'épanouir dans ce qu'on fait, dans nos domaines, de trouver sa place, etc., etc. Ce qui en soi n'est pas forcément mauvais, mais est-ce que c'est vraiment ce que la Bible enseigne ? Est-ce que c'est ce que Jésus dit ? La Bible insiste plus sur l'attention que nous, en tant que personnes, on doit porter envers les autres qu'envers nous-mêmes. Et je me souviens de cet ami qui, lors de son témoignage, racontait que la première chose qui l'avait frappé et l'une des choses qui le remettait sincèrement en question vis-à-vis de ses croyances, c'était pas qu'on lui parle forcément de Jésus tous les jours, qu'on lui parle de Dieu tous les jours, qu'on lui parle de la Bible tous les jours, qu'on essaye de l'inviter à tel ou tel événement, à un concert, ou à un groupe d'études de maison. Non, c'était pas ça qui l'avait frappé. Ce qui l'avait vraiment frappé, c'était de voir que la communauté qui l'invitait vivait un vrai et un réel amour les uns envers les autres. Et ça lui faisait poser des questions. Il disait, mais attendez, ces personnes-là, ok, elles me parlent de Jésus, mais ce qu'elles sont en train de vivre, ben, je le vois vraiment, et c'est vrai. Et au fur et à mesure, il commençait à considérer l'évangile, et il s'est converti. Moi-même, lorsque j'ai été 3 ans en Belgique, j'ai été bénéficiaire de l'hospitalité, de la grâce, de la bonté de mes frères et sœurs en Belgique. Et franchement, si j'avais pas reçu ça, je pense pas que je serais resté 3 ans. Je pense que je serais parti au bout de la première année. J'étais tellement frappé par des églises, par des frères et sœurs qui ne te connaissent vraiment pas, mais qui viennent, qui t'accueillent et qui te considèrent comme leur propre fils. Et qui te disent « Ouais, mais la maison, elle est pour toi. Oui, on t'accueille chez nous, il n'y a pas de problème. » Et qui sont prêts à t'aider. Simplement parce que tu es chrétien, parce que tu sers à l'église ou juste parce que tu viens dans leur église. Et ça, c'est marquant, en fait. Et c'est vraiment ça ce qui frappe les gens aujourd'hui. L'amour fraternel, la communion fraternelle. Alors, un défi pour nous, un défi pour toi, un défi pour moi, c'est de sortir de ta zone de confort. De parler avec d'autres personnes, des personnes avec qui tu n'as jamais parlé, de les inviter chez toi, et des personnes que tu n'as jamais invitées chez toi. Et nous sommes la famille de Dieu. Si nous savons que nous sommes la famille de Dieu, alors vivons comme une famille. Ce que tu penses faire à ton frère ou à ta sœur physique, fais-le à ton frère ou à ta sœur spirituelle. Et je sais que vous le faites déjà parce que combien de fois j'ai été bénéficiaire de ces trajets entre ici et la gare. Écoutons ce que Jésus dit vis-à-vis de ça dans Marc 3, à partir du verset 32. Je vais rapidement lire Marc 3. Verset 32 à 35. La foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici ta mère et tes frères et sœurs sont dehors et te cherchent. » Il, Jésus, répondit « Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ?» Puis il promena le regard sur ceux qui étaient assis tout autour de lui et dit « Voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Marcher dans la vérité implique donc de montrer son amour envers ses frères de n'importe quelle manière. Et ici, en tout cas, ce que j'en dis à Gaius, c'est à travers l'hospitalité. Gaius avait compris que bibliquement, et je vais insister dessus, parce que c'est pas une chose qu'on a l'habitude d'entendre, bibliquement, les liens de la famille spirituelle sont plus forts que les liens du sang. Comment imiter encore Gaius? Comment imiter cette personne qui a marché dans la vérité, qui a fait preuve d'hospitalité? Et ben, troisième point, imite le bien et non le mal. À partir du verset 9 jusqu'au verset 11, Jean s'oppose à un certain Diotrèphe. Et ce Diotrèphe, c'est l'exemple que vous ne devez surtout pas suivre. Il lui avait déjà parlé, de plusieurs manières, à travers une première lettre, mais lui, paf, il avait rejeté. Il n'a donc pas accueilli les frères qui avaient apporté la lettre et a empêché d'autres frères dans l'assemblée d'accueillir ses frères. Et c'est en partie pourquoi Jean, en fait, écrit à Gaius, parce qu'il n'y a personne dans l'assemblée qui semble l'écouter. Et Jean dit qu'il va s'occuper du problème. Diotrèphe est, de par son comportement, l'exemple d'un chrétien tout à fait contradictoire, de celui qui se cache derrière un masque. Il était sûrement l'un des responsables de l'assemblée, mais il parle contre Jean. Il a des paroles dures et mauvaises et méchantes contre Jean et ses collègues. Il fait preuve d'orgueil et il incite les autres chrétiens à ne pas marcher dans la vérité. Et le verdict de Jean est vraiment clair. Même si c'était un responsable, même si c'était un ancien, le verdict de Jean est vraiment clair. Verset 11. Il n'a pas vu Dieu. Parmi nos trois fraudeurs du début, on pourrait rajouter Diotrèphe. Mais cela est un avertissement pour toi et pour moi. Pas simplement pour Lance Armstrong, Bernard Madoff, ou pour Jérôme Cahuzac, ou pour Diotrèphe, mais pour toi et pour moi. Le premier problème de Diotrèphe, c'était le fait qu'il parle mal de Jean et des autres. Il tient des propos méchants envers eux. Et j'ai envie de te dire, si jamais tu te retrouves dans une situation de conflit, tu te dois de faire attention. De faire attention à ce qui sort de ta bouche. Marcher dans la vérité implique de faire attention aux propos qui sortent de ta bouche et de la manière dont tu règles les problèmes. Peut-être que Diotrèphe avait certains points à faire valoir. Peut-être que c'était pas si mauvais. Mais son comportement démontrait un manque d'authenticité. Mon frère, ma sœur, si tu as un problème avec quelqu'un, va la voir, va voir cette personne et va discuter en privé avec elle, va la voir personnellement et discuter de façon adulte et responsable, de façon calme et posée, dans l'amour fraternel de Jésus-Christ. Le deuxième problème de Diotrephe, c'était le fait qu'il ne faisait pas preuve d'hospitalité. Donc si tu as du mal à l'idée d'héberger des gens, de les inviter à manger, ou à subvenir à leurs besoins financiers ou autres, alors pose-toi la question. Est-ce que j'imite le bien ou est-ce que j'imite le mal? En tout cas, Jean, l'apôtre Jean, a pour l'habitude de trancher de manière nette. Pour lui, il n'y a pas de gris. « Ah, mais oui, selon les circonstances et tout, etc. » Non, il n'y a pas. Pour lui, c'est soit blanc, soit noir. Un chrétien marche dans la vérité, qui marche dans la vérité, il fait preuve d'amour, il fait le bien, il fait preuve d'hospitalité. Sinon, il y a un problème quelque part. Peut-être qu'on est grandement influencé par la société actuelle, alors on doit se corriger. Ou peut-être que ça nous est jamais venu à l'idée de faire preuve d'hospitalité, alors on doit se corriger. Et faire le bien, verset 11, ce n'est pas simplement faire des bonnes actions comme donner de l'argent au Téléthon. Un chrétien fait le bien autour de lui, non pas pour plaire à Dieu, non pas pour plaire aux hommes, mais parce que c'est devenu naturel. C'est dans son ADN, c'est son identité. Il a été renouvelé par Dieu et donc il est amené à faire le bien. Et c'est ce qui montre l'authenticité d'un chrétien. Tu as été sauvé pour accomplir des actes de justice. Et c'est parce que ton âme est lavée du mal à cause de Jésus-Christ que maintenant tu dois imiter le bien. Comment imiter le bien? Comment faire le bien autour de nous? Déjà, ne fais pas comme Diotrephe. Respecte la parole des responsables. Éloigne-toi de l'orgueil. Fais preuve d'hospitalité et incite les membres autour de toi de l'Église à faire preuve d'hospitalité. Mais faire le bien ultime, c'est édifier nos frères et sœurs dans la foi, prier et lire la Bible ensemble en tant qu'Église et annoncer l'Évangile envers les non-chrétiens. Alors je ne veux pas que tu partes cet après-midi en te disant « Oh, je commence à douter parce que je fais pas tout ça et je sais que j'ai plein mal de choses à régler dans ma vie. » Je veux pas que tu partes avec cet état d'esprit. Je veux pas que tu partes en te disant « Ouais, je fais preuve d'un manque d'authenticité, donc je ne suis pas vraiment sauvé. » Au contraire, si tu as mis ta foi en Jésus-Christ, c'est fait, ton salut est payé. Et maintenant, corrige ta manière de vivre et vis selon les principes que Jean dit à Gaius. Si tu te reconnais en tant que chrétien et que tu n'as pas toujours imité le bien, fais preuve d'hospitalité et d'amour. N'attends pas de changer demain ou après-demain, change maintenant, change aujourd'hui et invite un ami. Dieu t'encourage à marcher dans l'amour en le montrant envers l'hospitalité envers tes frères et il te met en garde contre l'orgueil, l'inhospitalité et la médisance. Tout cela afin que tu, moi, nous, en tant que communauté, nous imitions le bien et que nous fassions ce que Jésus nous demande de faire. Amen.